Qu'est-ce donc, Pierre, que le E-171 ?
Mystère. Aujourd'hui, Caroline, quelques jours après que Julie Gayet et Jamel Debbouze ont fait analyser leur pipi quasiment direct chez nos confrères d'envoyés spécial afin de montrer leur perméabilité au glyphosate, je voudrais vous parler d'un autre intrus possible dans nos corps de consommateurs, le dioxyde de titane, plus connu effectivement sous son petit nom E-171.
C'est donc un additif.
Voilà, je rassure tout de suite nos auditeurs qui n'ont guère envie de changer leur menu du dimanche après ce qu'on vient d'entendre. À cause d'une chronique anxiogène, je souhaite seulement prendre cet exemple pour illustrer ce que peut bien vouloir dire aujourd'hui en matière d'alimentation le principe de précaution. Rappelons pour commencer qu'avant 1961, aucune étiquette ne comportait quelque E que ce soit. Mais l'industrie alimentaire, voulant conserver les aliments toujours plus longtemps et faire briller ses produits, s'est mise à tâter sérieusement de la chimie. Et notre E-171, qui permet notamment de blanchir, d'opacifier et de faire briller des préparations, s'avère parfait pour l'enrobage des bonbons, de la plupart des chewing-gums, mais aussi pour faire de jolis gâteaux, des soupes, des glaces. Bref, difficile de ne pas en consommer une fois dans la journée. L'ennui, c'est que sous cette forme de nanoparticules, la chose se dissémine, on ne sait trop comment, et en 2006, le Centre international de recherche pour le cancer a classé notre E-171 comme, je cite, « cancérigène possible pour l'homme » lorsqu'il est inhalé. Alors, on s'inquiète ? Aucune raison, puisque s'agissant d'inhalation, le danger ne concerne que les employés des sites de production. Et puis, plus de 10 ans plus tard, l'Institut national de la recherche agronomique montre que, ingérée, cette substance favoriserait la croissance des cellules précancéreuses du côlon. Alors, on s'inquiète ? Toujours pas, car c'est une étude sur les rats et rien ne montre que les résultats sont vraiment transposables sur l'humain. L'étude est transmise à un troisième organisme, cette fois-ci européen et qui décide de tout, l'Autorité européenne de la sécurité des aliments, qui estime que l'étude remise par la France ne remet pas en cause sa propre évaluation de 2016 et que la seule urgence est de commander une autre étude.
Mais est-ce qu'on ne peut pas faire jouer à ce moment-là le principe de précaution et suspendre l'utilisation de cet additif ?
Eh bien, Caroline, s'agissant de ce E-171, et c'est tout l'intérêt de cette histoire, le très bon score de Bruno Le Maire à l'épreuve de rétropédalage est le signe d'un réel changement dans l'appréhension de ce type de problème. Car notre ministre s'est dans un premier temps assis sur la loi de l'alimentation, votée en novembre dernier, qui prévoit bien la suppression du E-171. Et pour se justifier, il a repris ses classiques. Les scientifiques n'ayant rien prouvé formellement, il est urgent d'attendre qu'ils achèvent leurs travaux, et même, tiens, pourquoi pas, on va commander une étude à un autre organisme. Bien sûr, les ONG se sont mobilisées aux côtés des parlementaires, et il n'a pas fallu plus de 48 heures à Bruno Le Maire pour revoir sa copie et signer l'arrêté d'interdiction. Mais la véritable nouveauté, me semble-t-il, est ailleurs. Et elle a pour nom Carambar, Malabar, Haribo, Carrefour, Super U, Leclerc, Picard, William Sorin, qui tous ont précédé cette décision en enlevant depuis plusieurs mois le E-171 de leurs produits et de leurs linéaires, parce que le patron, c'est plus le ministre, mais le consommateur.